Très sérieusement, quand moi j'ai eu l'idée de ce livre, je vous dis, c'est pas une anecdote seulement, j'ai eu l'idée de ce livre il y a un an et demi. J'avais déjà travaillé sur le Front Populaire il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est le privilège de l'âge. Il faut faire attention à ne pas se répéter ou à pas tourner en rond. Et pourtant, il y a toujours ce problème des commémorations. Et je voyais arriver la commémoration du Front Populaire autour de l'année 36, donc 2016, quand il y a eu la panthéonisation des résistants en 2015. Et je ne sais pas si certains se souviennent de cette opération culturelle et historique qui a fait qu'on a mis au Panthéon des personnalités estimables, qu'on a créé en quelque sorte une mise en scène de ce qu'avait été la résistance à travers des personnes estimables, mais dont il fallait remarquer qu'aucune n'avait appartenu au mouvement ouvrier, aucune n'avait été associée à la lutte armée et appartenait à des catégories qui n'étaient pas celles des milieux populaires ni du mouvement ouvrier. Et donc je me suis dit, mais vous voyez, c'est toujours une manière de se mobiliser, je me suis dit l'année prochaine pour le Front Populaire ça va être terrible. J'imaginais pas ce qui s'est passé en fait. Parce que j'imaginais une commémoration, mais du style de Léon Blum à François Hollande, le gouvernement fait son possible, fait du social et son possible. Ben, ça s'est même pas passé comme ça, hein, vous savez mieux que moi, puisque le 3 mai, début mai, pour commémorer la victoire électorale, c'était la passage en force pour imposer le détricotage de la loi, des mesures sociales de 1936 sur les conventions collectives. Donc c'était pire que ce que j'avais imaginé. Mais entre-temps, j'avais fait un bouquin que le Cherche-Midi a bien voulu prendre comme un livre plutôt synthèse autour justement des questions que Jean Numa évoquait, le contexte, le terme monde du Front Populaire, c'est parce que c'est à la fois proche et lointain, c'est une autre époque, donc il faut se méfier des ressemblances immédiates, mais cela dit, la France c'est la France, il y a des analogies dans la manière de faire la politique, et puis la France est en Europe et dans le monde, et de ce point de vue, c'est une sorte d'anachronisme de penser qu'aujourd'hui seulement il y a des effets mondiaux sur la vie politique française. Dans les années 30, c'est majeur, ces effets internationaux, ces interactions. Donc ça m'a amené à retravailler sur le Front Populaire et à vous présenter ce soir, compte tenu de ce que mes camarades Horry et Vigreux ont déjà présenté, quelque chose qui sera un peu différent. Puis pour les autres qui n'ont pas entendu ni Vigreux ni Horry, j'espère que ça se tiendra quand même. Donc, d'abord, le Front Populaire, pour moi, ça n'est pas 36. Plus exactement, ça n'est pas que 36. Et de même, ça n'est pas qu'un chef de gouvernement fut-il important avec la personnalité qui est la sienne, c'est-à-dire ce n'est pas que Léon Blum. Et ce n'est pas que les congés payés, même si les congés payés, c'est important. Vous voyez, parce que c'est ces trois images qui sont associées ou qui résument le Front Populaire, en général. Et quand on fait l'enquête auprès de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, on leur demande qu'est-ce que ça évoque, le Front Populaire. Souvent, ça évoque pas plus que ça. Or, je pense que ça mérite mieux, le Front Populaire. En même temps, il y a eu aussi une histoire qui est un peu embellie du Front Populaire. Le Front Populaire, c'est non pas une année, mais c'est 4 ans. Et c'est 4 ans, 4 années très hétérogènes. C'est une séquence événementielle marquée par des événements qui sont inattendus dans l'histoire politique de la France et de l'Europe. Mais ensuite, marqué par des succès des mouvements sociaux, de la gauche, et d'une gauche rassemblée autour d'objectifs qui jusqu'alors ne la rassemblaient pas, c'est l'échec du fascisme en France, c'est l'échec de l'extrême droite. Comment on a fait pour battre l'extrême droite en France? Eh bien, vous le saurez, quand vous le savez d'ailleurs, mais quand, ça mérite d'y réfléchir, même encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on examine le Front Populaire. Mais en même temps, le Front Populaire, c'est la fracture de la gauche, c'est un échec rapide d'une partie des promesses qui avaient été tenues, et c'est une désillusion. Mais c'est pas une désillusion, c'est pas seulement ça, c'est en même temps une expérience partagée, une expérience collective qui va irriguer la résistance, qui va irriguer la France à la libération. Dans le programme du CNR, on retrouve en gros la leçon des expériences du Front populaire. Alors vous voyez, j'ai dit c'est 4 ans, mais c'est aussi un événement politique à remettre dans une séquence un peu plus grande, des années 30 à la guerre, et la résistance et la libération. Et là, l'événement prend sa mesure. Mais même parfois, quand même la droite a tenté de ne pas combattre le Front populaire plus tard, Pétain a fait le procès du Front populaire. Il a mis en scène le procès du Front populaire. Il a rendu le Front populaire responsable de la défaite. Parce que les Français avaient perdu le goût du travail. Son premier discours, le 17 juin, le discours de la honte historique de la France, qui demande aux soldats d'arrêter les combats, il met en cause le peuple de France qui a perdu le goût du travail. Depuis 36. Les 40 heures. Et le reste. Mais en dépit de ça, plus tard, le Front populaire est resté dans la conscience collective très populaire dans la population française, à tel point que l'ancien président de la République, là, de droite, qui a été là battu récemment aux élections primaires, Sarkozy, oui, voilà, j'avais déjà oublié.
Sarkozy. À force de faire de l'histoire, on en oublie les.
Oui, non, mais c'était parce qu'il voulait entrer dans l'histoire, il en est déjà à moitié sorti. Et donc, Sarkozy avait fait un effort, vous vous souvenez, après sa victoire électorale, pour s'approprier le Front populaire. Et il l'avait fait avec une certaine habileté, d'ailleurs, parce que d'aucuns avaient oublié même le Front populaire à gauche. Hein. Voilà, évidemment. Alors, Sarkozy, de ce point de vue, on doit lui reconnaître une certaine habileté. Mais dernièrement, la droite revenue à ses fondamentaux, là, a un vrai programme qui est un programme d'éradication du Front populaire. Revenir à 48 heures, c'est revenir à la loi des 8 heures de 1919. Hein. Et là, le programme est un programme véritablement d'effacement, y compris des mesures du Front populaire. Sauf que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent au Front populaire dans la société française aujourd'hui. Et ça, on va le revoir. Il faut ménager un peu de suspense. On va le revoir en présentant un peu l'enchaînement chronologique de tous ces événements. Alors, je dirais que le Front populaire, dans ce cadre que je viens d'évoquer, c'est trois choses. C'est d'abord l'émergence d'un mot d'ordre. Parce que d'où ça vient, le mot d'ordre? C'est très spécifique. Dans l'entre-deux-guerres, après la Révolution russe, dans l'Europe des années 20, ce mot d'ordre n'existe pas. Après, il va devenir presque banal, Front populaire antifasciste. Oui, mais comment il est né? Comment il a été produit? Après, ça va devenir non seulement un mot d'ordre, mais un mouvement de rassemblement, de manifestation. Il va devenir une sorte de force collective, sinon matérielle. Et puis, il y a une articulation en troisième moment entre une expérience électorale, une victoire électorale, et un mouvement de grève sans pareil, qui débouche sur une expérience gouvernementale. Alors tout ça, c'est le Front populaire. C'est, si vous voulez, les différentes composantes du Front populaire du point de vue de l'histoire politique. Et ça va produire des effets culturels, sociaux, dont on parlera, bien sûr. Mais je veux mettre ça en place. Alors, aux origines du mot d'ordre, c'est 1934. Et c'est là où il faut parler de l'international. 1934, la France est dans une crise économique. Donc aujourd'hui, quand j'avais des étudiants, il y a 25 ans, je leur expliquais ce qu'était une crise, le chômage de longue durée, chronique. Ils disaient, bon, c'était pas facile à faire comprendre. Aujourd'hui, j'ai pas de problème pédagogique. Il y a une perception forte, la jeunesse était touchée, mais c'est une crise qui ne ressemble pas exactement à celle d'aujourd'hui. Un pays qui est en grande partie encore rural, le monde ouvrier est très touché par cette crise, et c'est un monde ouvrier qui n'a aucune protection sociale, aucun système de compensation sociale, et qui est payé à la tâche, ou à l'heure, ou à la journée de travail. C'est-à-dire, si on ne travaille pas, on n'a rien. C'est simple. Et il n'y a aucune protection sociale au sens allocation chômage, que des sous populaires ici ou là selon les municipalités, et un peu de philanthropie caritative, des bonnes œuvres d'un clergé conservateur. L'ambiance dans cette France de 1934, c'est une ambiance de désillusion à l'égard de la gauche. La gauche a gagné les élections en 1932. Elle a gagné sur une base qui était une base de protestation contre la crise, en faisant des promesses pas des promesses monstrueuses, mais des promesses. Des grands travaux pour donner du travail à tout le monde, contrôler les mouvements de capitaux, une réforme fiscale, faire payer, sinon tous les riches, mais un peu plus quand même, et puis des mesures contre les dangers de guerre, une politique de sécurité collective. Le parti radical qui dirige cette gauche à l'époque et qui est soutenu par les socialistes est affecté d'un syndrome qui est assez bien connu sous la Troisième République, c'est-à-dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient et les gouvernants ne se sentent pas concernés par les promesses qu'ils ont présentées. Et donc le gouvernement radical oublie les promesses. Ah, ils oublient devant les impératifs de la crise, la pression des milieux financiers, et un an après cette victoire électorale, des scandales de corruption d'une partie des ministres, des députés radicaux éclatent au grand jour. C'est la mort mystérieuse de banquiers, de conseillers qui ont financé des campagnes électorales et qui permettent de répandre l'idée que tous les parlementaires sont corrompus, sont pourris. L'extrême droite, qui était très faible en France, connaît une expansion considérable sous forme de ligues d'extrême droite, mais aussi dans des élections partielles, sur le modèle allemand exalté et le modèle italien exalté. Au même moment, Hitler arrive au pouvoir. Au même moment. Hitler est arrivé au pouvoir. J'ai pas dit qu'il a pris le pouvoir. Hein. Il est arrivé au pouvoir avec une alliance avec les milieux conservateurs allemands dans un pays qui semblait le pays du mouvement ouvrier, le pays le plus moderne de l'époque, où les socialistes et les communistes étaient plus puissants que l'extrême droite, très nettement. Et pourtant, c'est non seulement la défaite de la gauche allemande, mais c'est l'instauration d'une dictature qui, en quelques mois, ouvre les camps de concentration, déporte, arrête et liquide tout le mouvement ouvrier. Cette défaite a un écho en France considérable. Sur la population, sur la gauche, on voit des initiatives, des fronts communs, des appels de Romain Rolland et d'Henri Barbusse contre le fascisme et la guerre, toute une série d'initiatives dans lesquelles on va pas entrer dans le détail, mais dès l'année 33, il y a cette émotion. Et pourtant, rien ne se passe à gauche. La gauche reste divisée entre socialistes, communistes, les différents syndicats. Et il faut attendre le début de l'année 34 pour qu'un événement politique, non pas secondaire, mais symboliquement très fort, mais qui n'a rien d'énorme, c'est une manifestation des anciens combattants de l'extrême droite pour défendre le préfet de police de Paris, qui était un ami de l'extrême droite, CAP, et qui avait été déplacé. Vous savez, ce genre de sanction, on fait une promotion au fonctionnaire qui est sanctionné. Hein. Et donc, il avait été nommé au Maroc gouverneur général, mais on voulait garder CAP à Paris parce que c'était l'ami de l'extrême droite. Et ce soir-là, le gouvernement radical, présidé par Daladier, démissionne. Il démissionne. La droite a gagné. Et il y a toujours en France, vous savez, un ancien président en réserve. Il y en a toujours. Et là, c'était Gaston Doumergue. Gaston Doumergue arrive de l'Aveyron, on va le chercher, et il forme un gouvernement dit d'Union nationale. Quand vous entendez parler d'Union nationale, en général, c'est un gouvernement conservateur qui réussit à débaucher une petite partie de la gauche. Là, il y a le retour du maréchal Pétain, pour la première fois qu'il fait don de sa personne en politique. Il y a Laval, il y a aussi Herriot, ce radical. Et qu'est-ce que le gouvernement Doumergue a comme programme? Renforcer l'autorité, exécutif fort, défendre et surtout réduire les dépenses publiques et surtout diminuer le nombre des fonctionnaires. Mais je n'invente pas, hein. Ça, je n'invente absolument pas, vous pouvez. Et à l'époque, on les appelle, les fonctionnaires, des budgétivores. Et d'autre part, évidemment, il y a une ambiance européenne qui donne des ailes à la droite et à l'extrême droite. Les mêmes jours, à Vienne, Les socialistes autrichiens sont écrasés, la municipalité, le monde socialiste qui jusqu'alors avait considéré qu'on pouvait peut-être trouver des aménagements, ils sont écrasés par le gouvernement autrichien qui établit un régime autoritaire qui liquide les libertés ouvrières et démocratiques de la ville de Vienne. C'est une ambiance qui est donc marquée par la victoire de la droite. On a, en France, c'est ressenti comme la victoire, la montée du fascisme, comme en Allemagne. Après, aujourd'hui, les historiens vont discuter. Est-ce que c'était vraiment comme en Allemagne ou comme en Italie ? Peu importe. C'était une victoire de la droite et de l'extrême droite. Et surtout, c'était ressenti comme, en quelque sorte, un moment où la gauche française, ou le mouvement ouvrier français, devait réagir. Et alors, justement, il réagit. Alors voilà, il réagit le 12 février, j'entre pas dans les détails, après dans les discussions, si vous voulez, on le fera. Le 12 février, pour la première fois, grande grève politique dans un pays où parti et syndicat, chacun était de son côté, vous savez, la question du rapport parti-syndicat, à l'appel de la CGT et de la CGTU, des deux fractions de la CGT qui étaient divisées depuis 1921, appellent à défendre les libertés démocratiques contre le fascisme. Grève politique de 24 heures, qui est en fait un ensemble de grandes manifestations auxquelles les partis communistes et socialistes se joignent. Et dans toute la France, à Rouen par exemple, dans toutes les villes, les préfectures, les centres urbains, vous avez des manifestations, des meetings qui témoignent d'une émotion populaire partagée par le monde ouvrier, par des fonctionnaires qui manifestent plus qu'ils ne font grève. Parce que, à l'époque, faire grève, en temps de crise, c'était souvent risquer de perdre son boulot. Donc, quand on était dans l'industrie privée. Et c'est là que démarre, alors, l'histoire du Front Populaire. Ça a démarré comme ça. Donc, c'est pas une belle idée qui est née comme ça d'une sorte de, d'envie de faire mieux. C'est d'abord une réaction. Une riposte. Lié à une angoisse, une inquiétude. Mais pour aller de la riposte à la notion de Front Populaire, il y a une marge quand même. Il y a ce qu'on pourrait appeler une invention politique ou une initiative. Et l'initiative, c'est au cours de l'année 34, deux étapes. Pour la première fois en Europe, depuis 1920, l'unité d'action entre socialistes et communistes. Alors ça se fait au mois de juillet 1934. Ça se fait de nouveau dans un contexte international qui donne non pas toute la clé, mais une partie de l'explication. Parce que la présence de l'Union soviétique, le rôle de l'Union soviétique est une donnée de toute l'histoire politique européenne. Si vous mettez l'URSS à côté, vous regardez pas ça, vous comprenez rien. Il y a une hantise dans la bourgeoisie européenne et internationale à l'égard de l'URSS. Mais l'URSS, c'est en même temps un pays qui est isolé diplomatiquement jusqu'alors, et qui en même temps, organiquement, a des liens avec le mouvement communiste, et d'autre part, a une certaine popularité, ou une popularité certaine, ça dépend des moments, dans les milieux populaires européens, qui voient l'URSS comme une sorte d'alternative ou d'opposition aux grandes puissances. Or, en 1934, Staline, pour aller vite, les dirigeants de l'Union soviétique s'inquiètent de ce qui se passe en Allemagne, la victoire de Hitler, ce qui se passe aussi, il y a un traité entre l'Allemagne et la Pologne, et il y a le rapprochement entre la France et l'URSS, qui commence dès 1934. J'entre pas dans les détails, mais c'est important parce que celui qui va devenir un peu le personnage emblématique de l'antifascisme en Europe, un Bulgare, Georges Dimitrov, qui avait été, dont Hitler avait fait le procès, vous savez, en 1933, Hitler avait, pour justifier l'installation de la dictature en Allemagne, il avait fait incendier le Reichstag, le Parlement allemand. Il brûle à la veille des élections en Allemagne, c'est pas mal. C'est la preuve du complot communiste. Et on a trouvé un Bulgare responsable de ça, c'est Georges Dimitrov. Et Georges Dimitrov, il y a une solidarité autour de lui dans les mois qui suivent. Et Georges Dimitrov, Göring, Goebbels et Hitler n'arrivent pas à prouver sa culpabilité. Il est acquitté. Et le gouvernement bulgare lui a ôté sa nationalité. C'était une époque où on créait par répression contre idéologique et politique, on supprimait la nationalité. C'était la déchéance de nationalité. Ça existait dans ces années 30. Ainsi, Dimitrov, privé de sa nationalité, est accueilli en URSS et on lui donne la nationalité soviétique et on lui propose de prendre la direction de l'international communiste. Pour des raisons de réalpolitik aussi, hein, je vous ai raconté en deux mots, Staline. Et donc, dans l'été 1934, l'international communiste va dire aux communistes français « Mais vous devez faire l'union avec les socialistes. » Je vais vite. Et les communistes français, qui s'étaient fait taper sur les doigts plusieurs fois parce qu'ils s'étaient rapprochés des socialistes à une époque où c'était pas à la mode, pour aller vite, propose aux dirigeants socialistes qui sont pas tous d'accord. Le Parti socialiste, exceptionnellement, est très divisé entre une gauche, une droite, un centre. C'est vrai, hein. La gauche socialiste est puissante et finalement impose à un secrétaire du Parti socialiste qui s'appelait Paul Faure et qui n'était pas pour. Léon Blum est en quelque sorte entre les deux. La signature du pacte d'unité d'action le 27 juillet 1934. C'est ce qu'on appelle à l'époque le front unique ouvrier. C'est important. Ça ne s'était pas passé comme ça en Allemagne. C'était un peu l'exemple allemand, même l'exemple autrichien. En Autriche, il y avait eu rapprochement, mais les communistes en Autriche étaient rien du tout. Tandis qu'en France, c'était une partie du mouvement ouvrier, beaucoup, beaucoup moins important que les socialistes. Les socialistes étaient plus importants. Mais enfin, il y avait un rapport de force quand même plus équilibré. Mais le mot d'ordre de Front Populaire, ça vient quelques mois plus tard, en octobre 34, et ça vient pas d'où on s'attendait que ça pourrait venir. On pourrait se dire c'est un mot d'ordre modéré, Front Populaire. Front Populaire pour le pain, la paix, la liberté, contre le fascisme. Et ce mot d'ordre, il est présenté par un vieux et un jeune. Parfois, quand ça marche bien, l'alliance des vieux et des jeunes, c'est bien. Parce que c'est vrai, parce que Marcel Cachin, c'était le dirigeant du journal L'Humanité, qui avait été socialiste, qui avait joué un rôle tout à fait important au moment du congrès de Tours, quand les socialistes avaient voté pour le nouveau parti. Et le jeune, c'était Thorez, le secrétaire général du parti, qui avait 34 ans, puisqu'il était né en 1900. Et ils proposent tous les deux le mot d'ordre de Front Populaire. Et à qui? Aux radicaux. Les radicaux, vous vous souvenez que le principal personnage du parti radical, qui s'appelait Édouard Herriot, il était ministre dans le gouvernement. Et donc ils vont proposer aux radicaux de se désolidariser de leur chef et de rejoindre le Front Populaire sur une base qui n'est plus ouvrière, mais aussi les classes moyennes, sur une thématique, défendre la République, défendre les libertés démocratiques, et au nom de cela, non pas la révolution maintenant, mais lutter contre le fascisme. Alors pour vous, de loin, c'est un détail, mais pour l'époque, c'est une révision très forte de ce qui avait été la stratégie du mouvement communiste depuis 1921 ou même 20. Quoi. Et donc ce projet de Front Populaire va finalement avoir un impact énorme dans la population française, d'abord dans le mouvement ouvrier, syndical, et dans les mois qui suivent, c'est là que se réalise ce qu'on pourrait appeler des formes de mobilisation municipale. Dans des villes, il y a les élections municipales au printemps 35, et puis à l'occasion du 14 juillet 1935. 14 juillet 1935, élections municipales, formation d'un rassemblement, c'est le terme de l'époque, rassemblement populaire, autour de la défense des libertés démocratiques. Les radicaux qui ont peur de perdre leur siège électoral dans les communes, dans les villes, ils passent des accords. Ils disent d'accord, on désapprouve le gouvernement, on signe un pacte d'alliance de Front Populaire pour la commune, etc. Et les élections municipales de 35 sont un succès. Pour la première fois, l'extrême droite ne gagne pas autant qu'elle le gagnait dans les mois précédents. Et deuxièmement, le 14 juillet 1935, il y a dans toutes les villes de France, d'énormes manifestations. Alors pour vous, le 14 juillet, il n'y a rien de très 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 original. Pour l'époque, manifester la gauche ouvrière, populaire, les syndicats, les associations sportives, manifester les 14 juillet, c'est très très nouveau. C'est très nouveau, comme disait Brassens dans sa, il y a une chanson, hein. La musique qui marche au pas, ça ne m'intéresse pas, je reste dans mon lit. Hein. Le jour où il y a le défilé militaire, la musique qui marche au pas. Dans le mouvement ouvrier français, depuis 1914, depuis la guerre, le drapeau tricolore, la tradition de la Marseillaise était associée au militarisme. Et tous ceux qui étaient anti-militaristes, qui étaient contre la guerre, ils étaient contre le 14 juillet. Le 14 juillet, c'était la droite qui manifestait, qui applaudissait l'armée. Et donc là, la décision est prise de récupérer la rue, si j'ose dire, de reprendre dans la rue le terrain du 14 juillet, mais avec une autre thématique, celle du serment, la fête de la Fédération, pour ceux qui se souviennent de l'histoire de la Révolution française, il y a 1789 et puis il y a 1790. Et 1790, c'est la fête de la Fédération où la nation prête serment de défendre la Révolution. Et là, c'est le serment antifasciste. Dans toute la France, vous avez des manifestations, drapeau tricolore, drapeau rouge, l'internationale et la marseillaise, pour défendre. Il y a prestation de serment dans les stades. Si j'avais le temps, je vous montrerai les films. On a retrouvé là, on a restauré les films du Front Populaire, tournés par la SFIO, la CGT, les artistes révolutionnaires. Ces manifestations sont tout à fait impressionnantes. Et on peut dire que c'est l'acte de naissance du point de vue collectif du Front Populaire, le 14 juillet 1935. Et alors, dans les mois qui suivent, la situation internationale est toujours terrible. Quand je dis toujours terrible, le danger de guerre continue de grandir. L'Italie agresse l'Éthiopie, le seul pays indépendant représenté à la Société des Nations. Et l'Italie envahit l'Éthiopie. La France et l'Angleterre, que font-elles? Eh bien, elles envoient leur flotte de guerre qui était en Méditerranée, elles les envoient patrouiller dans l'océan Atlantique. Comme ça, les Italiens peuvent prendre le canal de Suez et aller emmener les troupes en Éthiopie. C'est le président Laval en France, c'est Chamberlain en Angleterre. La gauche, que fait-elle? Au niveau international, elle est incapable de réagir de façon organisée. En même temps, l'international communiste adopte le mot d'ordre de Front Populaire pour l'ensemble des partis communistes, dans l'été 1935. Vous voyez, il y a ce double caractère toujours international qui est important. C'est important parce qu'il y a des choses qui se préparent en France et en Espagne. Et il ne faut pas oublier l'Espagne, on va parler de l'Espagne, c'est obligatoire. Et donc, voilà l'automne 35, climat de guerre, l'Éthiopie, et bientôt les élections législatives, et il y a le mouvement syndical qui commence dans fédération par fédération. Les cheminots jouent un rôle. Je sais qu'il y a une tradition ici du mouvement syndical cheminot à Rouen, hein, forcément. Enfin, quand on connaît l'histoire sociale, on le sait. Et il y a la campagne unitaire de la réunification des syndicats, fédération par fédération. Mais il y avait des divisions dans les syndicats. Faut pas croire que c'était simplement parce qu'il y avait des problèmes de personnes. Il y avait des problèmes d'orientation entre la CGT et la CGTU. Toujours est-il que cette réunification, à la base, débouche sur un congrès général de réunification qui a lieu au mois de mars 1936. Le syndicalisme français, dans sa majorité, est réunifié au congrès de Toulouse entre la CGTU et la CGT, avec un programme qui est un programme qui tient un peu des deux. Défendre les revendications, lutter pour les revendications et les conventions collectives d'un côté, un grand plan de travaux, puis les 40 heures de l'autre. Enfin, il y a un accord entre les deux et réunification. Et au plan politique, c'est là que les partis et les associations, avec les syndicats, vont définir une plateforme politique. Vous savez, quand on parle du programme commun, aujourd'hui, on pense spontanément, ça fait référence au programme commun électoral, ça fait référence aux années 70. Pour certains, peut-être s'en souviennent-ils dans la salle, tout le monde est très très jeune, mais enfin bon, peut-être quand même. En fait, la première fois qu'il y a un programme commun électoral de la gauche négocié, c'est pour les élections de 36. C'est un programme qui passe par des compromis compliqués. Parce que les radicaux, vous voyez d'où ils viennent, les radicaux, ils freinent autant qu'ils peuvent, et notamment sur les réformes de structure, sur le droit de vote des femmes. Sur le droit de vote des femmes, ils s'opposent farouchement au droit de vote des femmes, sous prétexte que les femmes sont sous l'influence des curés et qu'elles voteraient à droite. Bon, il y a quand même un programme qui est signé sur la diminution de la durée du travail, sur le développement des conventions collectives, sur une série de mesures sociales majeures, d'augmentation des salaires de 15 à 30%. Donc un programme où les mesures économiques sociales sont fortes. Les mesures économiques, on évoque une réforme fiscale. Tiens, elle revient, la réforme fiscale. C'est bon, réforme fiscale, faire payer les riches. C'est la formule. Et contrôle des capitaux. Et puis, il y a contrôle de la Banque de France aussi. Et puis, quelques mesures de nationalisation qui sont discutées pour les industries de guerre, les industries d'armement, aviation. Bon, voilà. Politique internationale de sécurité collective. C'est vraiment un programme qui est relativement limité, qui est dénoncé par la droite. La campagne électorale est très violente, hein. Campagne électorale où la droite dénonce les moscoutaires qui ont tout dirigé, mais en fait la droite n'arrive pas à mordre dans une dynamique qui est celle d'une alliance politique autour de ces thèmes du Front populaire. Et le 26 avril et le 3 mai, élection à deux tours, finalement le Front populaire va gagner les élections. Mais de façon curieuse, il gagne les élections alors qu'il y a eu un déplacement de 2 à 3% des voix seulement. C'est pas du tout un raz-de-marée électoral. Mais la gauche l'a pas perdu alors que tout était prévu, tout était programmé pour que la gauche perde ses élections par un système de déception, d'alternance tel que en 1934 on pouvait l'envisager. Non seulement elle l'a pas perdu, mais elle a un peu gagné. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ces élections? C'est qu'en fait, dans la gauche, les équilibres à l'intérieur de la gauche sont bouleversés. Et ça, personne ne l'attendait de cette manière. Le parti dominant, la gauche, celui qui avait été compromis, qui avait déçu une grande partie de l'électorat, s'écroule. Vous voyez, souvent aujourd'hui, on dit, tiens, en Europe, il y a des surprises électorales. Mais un peu d'histoire nous montre qu'il y en a eu dans le passé et qu'il peut y en avoir dans l'avenir. En tout cas, des surprises électorales, là, c'est une énorme surprise. Le parti radical perd près de 40% de ses voix, il perd 50 députés, et il perd son rôle de premier parti. Le parti communiste, lui, double ses voix. Personne n'imaginait ça, même les communistes, hein, je peux vous le dire. Encore les archives, ils y croient absolument pas. Et il passe de 9 députés à 72 députés. Vous voyez. Hein, voilà, et vous pouvez. Mais il reste à 1 500 000 voix. Ils ont 1 500 000 voix. Les radicaux ont à peu près 1 600 000 voix. Et le Parti socialiste, lui, ne gagne rien. Mais mécaniquement, il devient le premier parti de France, à gauche. Et c'est son chef intellectuel, politique, même s'il n'avait pas le rôle de secrétaire général, Léo Blum, qui va se trouver, en quelque sorte, investi de la tâche de former le gouvernement, alors qu'il n'avait pas du tout prévu ça. Et que personne n'avait prévu ça, tout le monde pensait que ce seraient les radicaux qui seraient, comme d'habitude, aux manettes, encadrés, mais bon, voilà. Et c'est dans ce contexte qu'il ne se passe presque rien après le 3 mai. Léon Blum accepte et dit il me faut un mois pour former mon gouvernement. Pour des raisons de légalisme, la fin du mandat du gouvernement, la législature précédente, et surtout parce qu'il ne sait pas comment former son gouvernement. Il y a plein de problèmes internes. Avec les radicaux, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le Parti socialiste est lui-même divisé. Quant à la question des communistes, grand problème. Ils ont dit qu'ils participeraient pas au gouvernement, qu'ils voulaient pas de portefeuille, qu'eux, ils faisaient pas de la politique pour avoir des portefeuilles ministériels, sauf qu'ils ont doublé leur voix. Et donc, ça traîne. Et c'est alors, mais vous le savez tous, mais quand même, parfois on oublie ça, c'est alors que les grèves démarrent. C'est-à-dire que les grèves de 1936 n'ont pas commencé pour revendiquer des revendications économiques, etc., avant les élections. Elles ont démarré après les élections. Et elles ont démarré d'une façon très curieuse, vous savez. Elles ont d'abord démarré pour défendre des syndicalistes renvoyés pour avoir manifesté entre les deux tours. Parce qu'entre les deux tours des élections, qu'est-ce qu'il y avait ? Le 1er mai. Et le 1er mai, à l'époque, c'était une journée de grève, de lutte, et c'était une journée de courage pour le mouvement ouvrier. Parce que dans cette période, si vous faisiez grève, vous alliez manifester, vous alliez pointer à une permanence syndicale le lendemain, en général, assez souvent, la maîtrise, le patron vous appelait et vous demandait d'aller directement au bureau sans passer par l'atelier et vous étiez licencié. Et c'est ce qui s'est passé. Le patronat en 1936 veut faire un exemple dans toute une série de grandes usines et il renvoie les dirigeants syndicaux après les grèves du 1er mai. Sauf que d'habitude, tout le personnel n'en pensait pas moins, mais il baissait la tête. Et puis il se passait rien. Et là, les premières grèves démarrent dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la mécanique, à Toulouse, à Paris, à Saint-Nazaire, dans justement toute la vallée de la Seine, où il y a de l'industrie mécanique et où il y avait du syndicalisme, pour aller vite. Et ces grèves de défensive vont, en quelques jours, prendre une autre allure. Parce que les patrons disent d'accord au bout de 4-5 jours, vu le caractère massif des grèves et du nouveau caractère des grèves, parce que les grévistes occupent les usines. Ils font grève et ils occupent. Alors, j'ai jamais vu ça. Il y avait eu 2 ou 3 expériences de ce genre dans des grèves désespérées où l'entreprise avait fait faillite, etc. Mais là, ils occupent. Alors pourquoi ils occupent ? On va en dire un mot. Mais en tout cas, le fait qu'ils occupent et qu'ils font grève commence à faire peur au patronat. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour lui. Il n'a pas compris ce qui se passait et les grèves se développent en reprenant le programme du Front populaire qui a gagné les élections et en demandant, entreprise par entreprise, qu'il soit en grande partie réalisé. C'est-à-dire, les ouvriers, la plupart sont mal syndiqués ou peu syndiqués. Et donc, ils vont faire des cahiers de revendications, augmentation des salaires, diminution de la durée du travail, etc., etc. Et ils portent ça au patron. Les grèves s'étendent tout au cours du mois de mai, dans la deuxième semaine de mai, ici ou là. Elles partent des grandes villes et puis après, elles vont se répandre dans les villes moyennes. La région parisienne, la région de Toulouse, mais bientôt bien d'autres régions, le Nord, etc. Et fin mai, début juin, il y a à peu près 2,5 millions de grévistes. C'est énorme pour l'époque, dans le privé, que l'industrie privée. Les fonctionnaires ne font absolument pas grève. On ne sait pas, ça. Les cheminots ne font pas grève. Là aussi, j'aime bien dire ça parce que ça surprend, et après on explique pourquoi. C'est pas qu'ils sont contre, ils attendent tout du gouvernement. Le nouveau gouvernement va, etc., face au gouvernement de droite qui avait baissé les salaires, hein, parce que, je vous raconte pas le détail, ils attendent, ils espèrent le nouveau gouvernement. Donc c'est vraiment le monde de l'entreprise privée qui fait grève. Et c'est là que le gouvernement se forme, dans l'urgence, après un mois, hein, une urgence relative, hein, mais enfin, début juin, et le premier acte du gouvernement, sur lequel je vais peut-être revenir un tout petit peu après, c'est de convoquer, d'inviter, dans une réunion dans le nouveau lieu où il y a le président du Conseil qui maintenant siège depuis quelques mois, l'hôtel Matignon, les syndicalistes de la CGT et la Confédération Générale de la Production Française. Donc CGPF qui va devenir bientôt après la Confédération du Patronat Français. Bon. Et là, pendant 2 jours, à Matignon, il y a négociation, pour la première fois en France. Il n'y a jamais eu de négociation interprofessionnelle nationale. Ça vous semble une banalité. Ben non, en France, il n'y avait jamais eu de négociation au plan national. Il a fallu 7 grèves, impensables jusqu'alors, pour que le patronat, cette confédération, accepte de négocier. Et il négocie sur quoi ? Sur un cahier de revendications qui a augmenté même par rapport au programme du Front populaire, au plan social, mais sur les salaires, sur les conventions collectives, sur la durée du travail et désormais aussi sur les congés payés. Et donc vont sortir de cette négociation au bout de deux jours, des dispositions qu'on va appeler les accords Matignon. Il y a dans ces accords Matignon tout ce qui concerne le monde du travail, on va dire. Et dans les 15 jours qui suivent, ces mesures vont être transformées en lois, ce qu'on a appelé les lois sociales du Front populaire. Les lois sociales du Front populaire, ce sont les mesures, les résultats de la négociation. C'est pas le dialogue des partenaires hein, sociaux, c'est pas ça, hein, vous voyez, ces formules. Hein. C'est une négociation entre ce monde ouvrier, ses représentants, le patronat. Dans ces mesures, il y a aussi une mesure très importante, celle que je viens d'énumérer, la représentation sur la base élective, l'élection des représentants du personnel. Désormais, le patronat ne peut pas choisir comme il le souhaite les bons ouvriers ou avec qui il va discuter ou les bons employés pour négocier quoi que ce soit. Il devra passer par les représentants du personnel. Ça semble une mesure de détail, c'est une mesure assez importante. Hein. Et surtout que le corps électoral de ces représentants du personnel, c'est qui? C'est l'ensemble du personnel de l'entreprise. Et dans l'ensemble du personnel de l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des hommes adultes, il y a des jeunes. Les jeunes, à l'époque, on travaille à 13 ans. Hein, on travaille à 13 ans. 12 ou 13, et on est considéré comme jeune jusqu'à 21 ans. C'est pas du détail, parce qu'un jeune gagne à peu près la moitié d'un adulte dans les salaires. Hein, c'est pas... Et il y a les femmes, et il y a les étrangers. La France, c'est le pays où il y a en Europe le plus d'étrangers. En 1932, il y avait plus de 4 millions d'étrangers dans la France de l'époque qui avait 40 millions d'habitants. Vous voyez, en proportion, il y avait plus d'étrangers dans la société française de 1930 qu'aujourd'hui. Quand vous dites ça, on vous regarde en général avec une certaine incrédulité. Et pourtant, c'est vrai. Et donc, ces grèves sont particulières et le corps électoral qui est en quelque sorte habilité à élire ses représentants du personnel et témoigne de ça. Parce que c'est la première fois que des femmes vont voter dans des élections, d'abord dans les entreprises. C'est la première fois que des étrangers votent aussi. Hein. Et ça fait partie de cette histoire du Front populaire, un peu méconnue, hein, je dois dire quand même. Hein. Pas de vous, mais en général. Et donc, les caractéristiques un peu originales de ces grèves, de ces mouvements. Et comme encore dans ces grèves, il y a quelque chose d'autre qui est vraiment tout à fait intéressant. C'est que ces grèves ne sont pas ouvrières seulement. Elles sont aussi, il y a les employés du commerce, de la banque. Les contemporains ont été frappés par les demoiselles des Galeries Lafayette. Qui étaient bien habillés, parce que l'habit de travail des demoiselles des Galeries Lafayette, c'était des gants, des voilettes, un chapeau et tout ça, et que les demoiselles des Galeries Lafayette occupent les grands magasins et déposent leurs cahiers de revendications, ça a bouleversé une partie de la bourgeoisie française qui a vu là une situation terrible. Et donc... Vous voyez, l'ambiance du mois de mai-juin, c'est à la fois une ambiance de fête, de joie, parce qu'il y a une sorte d'exultation de ce monde ouvrier qui, d'une certaine façon, découvre sa force, sa puissance, sa capacité à vaincre dans un climat de crise, d'anxiété depuis des années et souvent de désespérance. Avec ce qui se passait autour en Europe, vous voyez. Souvent, moi, quand j'ai interviewé des gens qui ont participé à ça, ils disaient « on n'y croyait pas ». C'était trop beau pour être vrai. Ils n'y croyaient pas. Partir en vacances et être payé, ils n'y croyaient pas. À l'époque où quand on ne travaillait pas une journée, on n'était pas payé, puisqu'on était payé à la journée, vous voyez. Avoir le droit de partir 12 jours en vacances et d'être payé, bientôt d'avoir un billet à tarif réduit dans les compagnies... C'était des signes, la durée du travail, diminuer la durée du travail, compliqué, passer de 48 heures à 40 heures. Hein. Comment faire? Il fallait augmenter les salaires, puisque les gens n'étaient pas payés au mois, la mensualisation n'existait pas. Certains se souviennent que c'est en 1968 que la mensualisation a été généralisée, bien plus tard. Donc l'augmentation des salaires devait venir compenser la baisse de la durée hebdomadaire du travail, vous voyez. C'est pour ça que la négociation sur les salaires a été si sévère. Et si vous regardez, souvent on a des discours, vous aurez une conférence aussi sur les femmes et dans le Front Populaire, si j'ai bien compris, non? Ou quelque chose comme ça, non? Une prochaine fois.
Ouais.
Une prochaine fois, d'après ce que j'ai compris. Mais les femmes sont présentes. Sans doute, elles sont présentes sans être tout à fait en capacité de développer ce qu'on pourrait appeler des droits, des revendications, comme aujourd'hui on l'estimerait nécessaire. Mais enfin, les salaires féminins sont augmentés plus que les salaires masculins. C'est une partie de la négociation de la CGT et de même celui des jeunes, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, bilan extraordinaire dans le domaine rural, il y a l'office du blé, il y a des mesures économiques qui sont prises pour la nationalisation des industries d'armement, le contrôle de la Banque de France, aussi, tout ça en 3 semaines. Fin juillet, toutes les mesures ont été prises. Le Sénat, la deuxième chambre, qui était hostile au Front Populaire, qui n'avait pas été élu à ce moment-là, ils ont tellement peur, enfin, c'est une peur sociale, c'est pas... mais ils votent, tout le monde vote ces mesures, pas seulement la Chambre. Et le patronat demande au gouvernement de faire évacuer les usines. La police n'interviendra jamais. L'armée n'interviendra jamais. C'est aussi quelque chose à rappeler, qu'un gouvernement de Front Populaire, quel qu'il soit, ne fait pas intervenir forcément l'armée et la police contre le monde du travail, en tout cas en 1936. C'est important parce que... cette situation va amener les entreprises à accepter, dans un premier temps, ces mesures. Mais à reculons, en espérant prendre leur revanche, notamment sur les conventions collectives. Puisqu'il est précisé que les conditions de travail, de salaire dans chaque entreprise devront être garanties par une convention collective qui aura été négociée non pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la branche et du syndicat de branche, du côté syndical comme du côté patronal. Il y avait des conventions collectives depuis 1919. Le principe avait été voté, mais jamais pratiquement appliqué. Et c'est seulement en 1936, parce qu'il y a cette obligation... que les conventions collectives vont entrer dans les faits et constituer des garanties importantes pour les salariés, branche par branche. Et ce qui s'est passé cette année prend toute sa résonance historique à la lumière de ce que je viens de vous raconter. Bon, alors, tout ça, c'est la montée. Je vois que le temps passe. Je vais essayer d'être bref sur les moments plus difficiles du Front Populaire, mais il faut raconter un peu les difficultés du Front Populaire. Je suis sûr qu'on vous a déjà parlé de la culture, des vacances, des congés payés. C'est formidable. Non seulement c'est formidable, mais le temps dégagé pour les loisirs va être significatif du point de vue de l'évolution de la société française, c'est-à-dire l'économie et la société vont de pair. Les progrès sociaux ont des effets positifs sur la population, pas dans l'immédiat, mais sur le pays, vraiment, ça, mais peut-être dans la discussion, on y reviendra. Mais moi, je voudrais traiter plutôt le versant des difficultés, parce que les difficultés arrivent très vite. Dans ce gouvernement, d'abord, on a un décalage entre le gouvernement et la dynamique du Front Populaire. Les communistes n'ont pas fait partie du gouvernement. Donc, ce gouvernement est déporté, si j'ose dire, décalé vers la droite. Enfin, à droite, vers le centre et la droite du Front Populaire. C'est-à-dire que les radicaux et les socialistes forment une équipe gouvernementale dont les communistes... Alors, Paul Vaillant-Couturier, qui avait le sens de la formule, qui était éloquent et quelqu'un de tout à fait habile, dit « Nous avons le ministère des masses hein ». Mais le ministère des masses, c'est l'influence que le Parti communiste a dans la population, et c'est vrai. Le Parti communiste, il passe de 40 000 adhérents à 300 000 adhérents. Hein ? Vous voyez, c'est... La CGT passe de 700 000 adhérents, au moment de l'unité, à plus de 4 millions d'adhérents dans l'année 36. Donc on a une politisation, une mobilisation dans les grèves. Les ouvriers ont adhéré chez Renault, usine emblématique, il y avait les tables. Les gens étaient particulièrement heureux de pouvoir ouvrir leur journal, d'affirmer leurs opinions, d'adhérer publiquement qui à la CGT, qui au Parti communiste, qui au Parti socialiste, etc. Il y avait donc toute cette dynamique, cette ambiance. Mais en même temps, décalage avec le gouvernement. Or, le gouvernement, il se trouve confronté à deux grandes questions majeures dans l'été 36. Lesquelles ? Question économique et question internationale. Question économique, dès que les usines sont libérées, entre guillemets, que les grèves sont arrêtées, qu'il y a les négociations, le patronat commence à dire « Ah, les conventions collectives, on n'est pas pour, etc. » Ils font traîner en longueur les négociations. Ça va durer des mois et des mois. Les grèves vont reprendre. Il ne faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain. Mais le mouvement est très puissant. Alors la réaction du patronat, c'est pas... Il y a la réaction immédiate, directe, frontale, mais elle est difficile. Vu la force du Front populaire, vu la force du syndicalisme, alors c'est l'exportation des capitaux. L'été 36, c'est une exportation massive des capitaux de tous les possédants. C'est pas que les patrons, c'est la bourgeoisie française qui va essayer, et elle y arrive, parce que le contrôle des capitaux aux frontières qui avait été prévu n'est pas appliqué, la réforme fiscale n'est pas appliquée, et où y vont les capitaux ?
En Suisse.
Ah, vous savez où ils vont ? Ils vont en Suisse. Ils vont en Suisse, les banques suisses mettent en place ce qui a fait le bonheur de la banque suisse, et pas seulement de la banque suisse, le secret bancaire. C'est dans l'été 36 que les banquiers suisses inventent, mais avec tout le dispositif, que les capitaux viennent, on ne demandera absolument pas l'origine des capitaux, ni même nominalement. On assure le secret et personne ne pourra savoir d'où viennent les capitaux. Formidable. Vous savez que 70 ans plus tard, même des ministres de gauche ont succombé à ce mirage. Mais en 1936, c'est vraiment les possédants. Et alors, c'est important parce que la balance des capitaux, la balance pas seulement commerciale, mais des capitaux, est en déficit dès le mois de septembre. Et les Britanniques, les Américains, dans cette situation, disent au gouvernement français qu'il faut absolument dévaluer la monnaie. Et c'est la dévaluation de la monnaie, la dévaluation du franc, dès le mois de septembre 1936. C'est-à-dire que une partie de cette affaire monétaire est symbolique, mais c'est vrai que pratiquement, ça veut dire que les produits importés coûtent plus cher, que ce qui avait été dû d'une main donnée à l'augmentation de salaire va se traduire par une augmentation des prix qui vont reprendre un peu sur les salaires. Le Parti communiste en difficulté dans cette situation, parce qu'il n'a pas été écouté, parce qu'en même temps il n'a pas beaucoup de prise, va s'abstenir au moment du vote de la dévaluation. Il ne va pas voter contre. Bon. Mais la difficulté majeure, elle est ailleurs. Elle est internationale. Et vous savez laquelle ? C'est l'Espagne. L'Espagne, c'est pas un épisode international secondaire. Au moment de l'arrivée de Léon Blum la victoire du Front populaire, déjà, il y avait une alerte grave. C'était la rive gauche du Rhin qui avait été remilitarisée par Hitler fin avril. Rien, aucune réaction. Or, vous savez que l'armée allemande, elle avait ordre de repasser le Rhin si les troupes françaises avaient fait un geste. Aucun geste. L'état-major français est déjà sur cette stratégie d'immobilisme qui fera sa réputation en 1939. En tout cas, en juillet 1936, c'est le coup d'état militaire en Espagne. Or, le coup d'état militaire en Espagne, le 18 juillet 1936, c'est pas n'importe quel coup d'état. Il y a déjà eu dans l'histoire espagnole des coups d'état. Mais c'est un coup d'État contre un gouvernement civil qui a été élu sur un programme de Front populaire en janvier 1936, quelques mois avant, gouvernement de Front populaire d'un pays qui vient d'instaurer la République. La République est toute fraîche, toute jeune en Espagne. Elle date de 1931, 36, vous voyez, elle a 5 ans la République. Et ce coup d'État, il se fait sur un mot d'ordre. Contre le Front populaire pour restaurer la monarchie. Pour restaurer la monarchie. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, dans l'Espagne actuelle, il y a encore un roi. D'où il vient ce roi ? Eh bien, il vient du coup d'État du 18 juillet 1936. Et Alors évidemment, ça interpelle le gouvernement de Front Populaire en France, d'autant que le gouvernement de Front Populaire en France a des accords militaires et diplomatiques d'alliance avec le gouvernement espagnol. Vous connaissez la suite. Je ne vais pas vous faire un numéro pour vous apprendre ce qui se passe, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça c'est plus compliqué. Puisque dans les jours qui suivent, le gouvernement espagnol se tourne vers le gouvernement français pour lui demander de respecter, enfin de respecter, d'appliquer les accords de coopération militaire, livraison d'armement, d'avions, etc. Et d'autre part, de l'appuyer, de l'aider. Pourquoi ? Parce que l'Espagne, c'est toute l'armée qui s'est rebellée. Il n'y a plus d'armée en Espagne. Il faut bien comprendre ça. Il faut avoir ça à présent à l'esprit. Et le gouvernement civil décide de résister. C'est la première fois en Espagne qu'un gouvernement civil décide de résister et d'appeler la population à résister. Ils distribuent les armes. Mais vous savez, quand les civils, quand ils ont une arme, un fusil, c'est pas pour ça que ça fait des soldats. Il n'y a pas d'armée. Et donc, vous voyez, la situation est d'autant plus dramatique et politiquement compliquée que c'est un gouvernement de Front Populaire. La réponse qui est donnée par le gouvernement français est une réponse dont il faut apprécier la formulation. La formulation, c'est de ne pas intervenir en Espagne pour défendre la paix. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Alors, mais il y a une argumentation. Vue de loin, aujourd'hui, quand on connaît la suite de l'histoire, on est toujours beaucoup plus intelligent. À l'époque, l'argumentation qui est donnée, c'est de dire « nous sommes dans le risque d'une guerre européenne ». Si nous intervenons en Espagne, ça va être toute l'Europe qui va sombrer dans la guerre. Donc il faut imposer la non-intervention à tous les pays européens pour empêcher que les événements espagnols deviennent un foyer de guerre européen. Ça va être l'argumentation pacifiste du gouvernement de Front Populaire. Qui pèse ? Comment ça se passe ? Les radicaux, ministre des Affaires étrangères, est tout à fait contre toute intervention. Les Britanniques, Churchill, vous savez, Churchill, il n'arrête pas d'être, ces derniers temps, ici ou là, célébré. Ce personnage est un personnage qui, à l'échelle de la période, est sinistre, porte une très grave responsabilité dans l'aggravation de la tension internationale. Churchill est obsédé par la Révolution espagnole. Il est obsédé par la perte du contrôle de la Méditerranée. Et il a des alliés, et ce qui s'est passé d'ailleurs, il était lord de l'amirauté à ce moment-là, avec l'Italie, pour l'Éthiopie, c'est pas par hasard. Et ce qu'il veut avant tout, c'est empêcher toute révolution, ce qu'il appelle révolution, en Espagne. Le Front Populaire, pour lui, c'était l'ennemi juré. Donc ils reconnaissent, les Britanniques reconnaissent immédiatement les rebelles. Voilà. Et donc, gouvernement anglais fait pression sur le gouvernement français, et à l'arrivée, la non-intervention. Le résultat sur le Front Populaire, vous avez deviné, c'est la fracture du Front Populaire. Parce que les communistes, une partie du Parti Socialiste, ne comprennent pas ce qui se passe. Et la CGT, entre temps, qui s'était renforcée dans les grèves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bascule entièrement, et même ceux qui étaient avant proches des socialistes, comme Léon Jouot, affirment leur solidarité avec l'Espagne républicaine. Et donc, à partir de là, pendant les 2 ans qui suivent, le Front Populaire, ça va être vraiment une des fêlures importantes du Front Populaire. Une des premières vraiment fracturées. Et on est 2 mois après la victoire électorale. Vous voyez, donc, ça commence vite. Je ne peux pas vous raconter l'ensemble de cette affaire, mais simplement dire que le volontariat en Espagne, à travers notamment les brigades internationales, a été un élément tout à fait important pour empêcher que le gouvernement civil espagnol soit balayé par l'armée de Franco. Hein, la bataille de Madrid, il y a juste 80 ans, la bataille de Madrid a été remportée jusque dans les faubourgs de Madrid, la cité universitaire, l'université. Hein. Les franquistes ont été arrêtés grâce aux brigades internationales qui sont venues renforcer les civils espagnols. Il y en a eu, il y a eu 35 à 40 000 volontaires qui sont partis de France. Ils sont tous partis de France. La moitié des Français, la moitié des Italiens, des Allemands, des Polonais, des Hongrois, qui étaient pour la plupart émigrés en France. Il y en a presque la moitié qui sont morts au combat, aux côtés des Espagnols. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Mais le résultat global, quand même, c'est un affaiblissement du gouvernement de Front Populaire. Alors donc, pour terminer ces épisodes, l'année, début de l'année 37, les mesures du Front Populaire en même temps se mettent en route. La population reste très attachée au gouvernement de Front Populaire. On est dans une situation compliquée. Et au printemps 1937, Léon Blum, le chef du gouvernement, qui a gagné en prestige populaire, parce qu'il a en quelque sorte obtenu le bénéfice des mesures sociales. On ne peut pas dire que le Parti socialiste ait été le seul responsable de ces mesures sociales, d'après ce que je vous ai raconté, mais c'est lui qui a récupéré le bénéfice politique. Les communistes, eux, ont un tout petit peu, de ce point de vue, perdu le bénéfice de toute l'action qu'ils avaient menée auparavant. Ils sont populaires. Et au printemps 37, Léon Blum dit un mot que peut-être certains connaissent dans un autre contexte, la pause des réformes est nécessaire. La pause des réformes nécessaire. Comment il s'appelle ? Delors.
Jacques Delors.
En 1982, il se souvenait de cette formule. Il était cultivé et il avait ressorti cette formule de Léon Blum en faisant référence à cet épisode. Et alors, la pause des réformes, ça veut dire quoi ? Une partie du programme ne peut pas être réalisée. Et ça concernait notamment la retraite des vieux salariés, des vieux travailleurs. Ça concernait les mesures concernant le monde rural, les paysans, et d'autres mesures, et les mesures fiscales, toujours la fameuse réforme des impôts. Et donc, on propose aux capitaux qui sont partis à l'étranger de revenir et de bénéficier non seulement d'une amnistie, mais davantage. Ça ne marche pas. De ce point de vue, l'expérience est intéressante parce qu'elle a servi plusieurs fois. Et donc, vous savez comment ça se passe ? Quand est-ce que Léon Blum quitte le gouvernement ? Parce que souvent, on oublie ça. Quand est-ce qu'il quitte le gouvernement ? Quelques mois après, en juin 1937, Léon Blum démissionne. On connaît toujours l'arrivée de Léon Blum au gouvernement, mais on oublie souvent son départ. Et son départ est vraiment intéressant. Son départ est intéressant parce qu'il a demandé enfin les pleins pouvoirs, les pouvoirs, ce qu'on appelait les pouvoirs spéciaux, pour réaliser dans la Troisième République par décret-loi des mesures fiscales, pour faire la réforme fiscale, la fameuse réforme. Et le Sénat, qu'est-ce qu'il a fait, le Sénat ? Il a dit non, le Sénat. Il était contre le Front Populaire depuis le début, et là, la situation permettait de dire non. Et qu'est-ce qu'il a fait, Léon Blum ? Il a dit d'accord. Et là, grand débat. Est-ce que la Chambre des députés a voté ces mesures, le soutien à Léon Blum pour la réforme fiscale, et le Sénat dit non. Et qu'est-ce qui l'emporte, finalement ? Le Sénat. Donc, débat constitutionnel aussi sur est-ce que le Sénat a le même pouvoir que la Chambre des députés ? Jamais cette question n'avait été vraiment tranchée, mais toujours la gauche avait dénoncé ce rôle, depuis même Clémenceau. Les socialistes n'en parlons pas. Et donc, au total, on arrive, juin 37, Léon Blum quitte le pouvoir. Je dirais que ça lui convient, parce que la situation apparaissait comme étant une impasse. Et qu'est-ce qui revient au gouvernement ? Les radicaux. C'est-à-dire que moins d'un an après la victoire, les grèves, la victoire électorale, vous voyez, la situation, quand même, est vraiment dégradée. Le Parti communiste, qui n'avait pas participé au gouvernement, il y a un télégramme de l'International, il y a un document dans lequel Maurice Thorez propose de participer au gouvernement. C'est trop tard. L'histoire ne repasse pas les plats, comme on dit, et donc ça ne sert à rien. Alors, la deuxième année du Front Populaire, celle qui va de 37 à 38, c'est ce qu'on pourrait appeler l'année de la décomposition, ou des difficultés montantes, du point de vue... Alors, il y a une dernière mesure qui est prise au mois de septembre 1937, une dernière grande mesure qui, ici, intéresse quand même beaucoup, c'est la SNCF. Mais la SNCF, vous savez, la SNCF, Le 1er septembre, il y a le décret j'explique ça dans le détail dans le bouquin, de constitution de la SNCF. Mais ce n'est pas une nationalisation, la SNCF. C'est une société nationale dans laquelle l'État prend 51% des parts et les anciennes compagnies, les actionnaires, gardent 49%. Ils les garderont jusqu'à quand? Vous savez, il y a peut-être des cheminots dans la salle. Jusqu'à la réforme de 1982. Et pendant tout ce temps-là, les compagnies, les actionnaires seront servis parce qu'on va leur donner des indemnités. Et d'autre part, les compagnies ferroviaires étaient portées à bout de bras depuis très longtemps par le budget de l'État. C'est-à-dire qu'elles ont fait une assez bonne opération. Et l'unification du réseau va demander un peu longtemps, presque une dizaine d'années, pour les statuts des cheminots. Mais malgré tout, va être créée cette société nationale. C'est le dernier acte important du Front populaire, du gouvernement de Front populaire. Ensuite, on peut dire que dans les mois qui suivent, on a des grèves, on a la question de l'application, la non-application des conventions collectives. Puis de nouveau, la guerre qui menace la situation internationale. Vous savez, cette situation internationale, c'est l'Autriche annexée par l'Allemagne au printemps 38. Là, de nouveau, le gouvernement radical décide qu'il est urgent de ne rien faire et il démissionne au moment de la riposte l'agression allemande. Et l'état-major, parce qu'il y a un lien avec l'état-major, et l'état-major rappelle qu'en dehors d'une mobilisation générale, on ne peut rien faire. Donc voilà. Et l'été 38, c'est la nouvelle offensive autour de la Tchécoslovaquie. Et là, je vais terminer, parce que c'est là que le Front populaire se termine. Mais c'est pas quand même par hasard. L'été 38, le chef du parti radical, le président du Conseil, Édouard Daladier, qui avait été aux côtés des manifestants du Front populaire, là, Édouard Daladier va à Munich pour répondre, comme il se doit, aux revendications allemandes et italiennes, bien présenté pour sauver la paix, mais lui, il n'a aucune illusion sur ce qu'il fait. Il abandonne les Tchèques sans que les Tchèques et la Tchécoslovaquie soient présentes à la conférence et sans que les Soviétiques soient présents à cette conférence alors qu'il y avait un accord entre la France et l'Union soviétique depuis 1935, un accord diplomatique quand il rentre à Paris, il est célébré comme le sauveur de la paix. Et lui, il a été sans illusion sur ce qu'il avait fait. Et dans le même temps, il fait entrer la droite au gouvernement, Paul Reynaud, qui décide comme acte symbolique, au nom de la guerre, de supprimer les 40 heures. Alors, on supprime pas les 40 heures. Vous pouvez travailler plus, mais vous serez plus payé en heures supplémentaires. Et donc, on revient aux 48 heures. Dans ce contexte, la CGT provoquée, mais en même temps divisé, appelle à la grève générale le 30 novembre 1938. Le 30 novembre 1938, c'est exactement non pas l'inverse de la grève de mai-juin 36, mais c'est très différent. En mai-juin 36, la grève s'était généralisée. Là, on appelle à la grève générale, ce qui n'est pas la même chose. Et quand on appelle à la grève générale 8 jours avant, c'est très difficile. Parce que le patronat, la police, le gouvernement peuvent se préparer pour briser la grève. Et c'est ce qui se passe. En plus, à l'intérieur de la CGT, parce que l'histoire est compliquée, à l'intérieur de la CGT, il y avait un courant pacifiste qui s'opposait à toutes les réactions contre Hitler au nom du pacifisme. Et qui était munichois. Plutôt, il fallait sauver la paix à tout prix. Donc, le mouvement ouvrier, une partie des syndicats des instituteurs notamment, très munichois. Une partie du monde syndical ne fait pas vraiment grève. Une autre partie fait une grève qui est brisée. Et c'est la chasse aux syndicalistes. Il y a plusieurs dizaines de milliers de licenciés après cette grève, pour fait de grève, d'arrestation. Et le syndicat s'effondre. Donc, l'automne 38, c'est la fin du Front populaire, officiellement. Les communistes sont les seuls à voter contre les accords de Munich, à la Chambre des députés. Le personnage emblématique, c'est Gabriel Péri. Une fois qu'on a dit ça, c'est l'échec du Front populaire. Alors, conclusion, Des illusions ? Oui et non. Le Front populaire est terminé, et pourtant, cette expérience, comme je l'ai dit en introduction, va vraiment marquer durablement ceux qui ont participé. Ceux qui ont participé aux grèves, ceux qui ont participé à ce qu'on pourrait appeler les nouvelles responsabilités que le mouvement ouvrier a pris dans les usines, dans les syndicats, dans nouvelles pratiques du syndicat, dans les auberges jeunesse, dans toute l'activité de loisirs. Cette expérience brève mais intense du Front populaire a été indélébile pour une partie des militants et du mouvement ouvrier. On sait que dans le cinéma, la culture, il y a une trace de ça à travers les films de Jean Renoir et même des films de fiction comme ceux de Duvivier, La Belle Équipe, La Marseillaise, mais il y a aussi La Grande Illusion, mais il y a aussi La Règle du Jeu. Il y a tout ça dans le cinéma de l'époque qui est français, qui est superbement créatif et qui reflète les divisions de la France. Cette France, pour terminer, parce que souvent, quand on parle du Front populaire, on parle de la joie et de la France derrière le Front populaire. Il y a une moitié ou une bonne partie de la France qui a eu peur, qui est organisée, encadrée par la droite et l'extrême droite. Les partis d'extrême droite ou de droite se sont reformés, qui opposent ville et campagne, les feignants contre ceux qui travaillent. Les feignants, c'est les ouvriers, les salariés. Dans les campagnes, c'est ceux qui n'ont pas de vacances, ceux qui n'ont pas de congés payés, qui travaillent tout le temps. On a une partie de l'extrême droite qui a développé ça, qui a fait peur au niveau des artisans, des petits boutiquiers, en disant, vous voyez, eux, ils ont des retraites, ils ont des avantages, ils ont la limitation de la durée du travail, et vous, vous travaillez sans garantie sociale. Donc, en opposant les catégories, hein, et la mise en cause aussi des ouvriers étrangers qui ont bénéficié, comme les autres, des réformes du Front populaire. Vous voyez ? Donc, la xénophobie, le nationalisme, l'extrême droite cherchent sa revanche. Vous savez comment elle va l'avoir. Elle ne l'a pas eue politiquement, elle a été battue politiquement. Elle va l'avoir grâce à la collaboration avec l'Allemagne. Et un des premiers actes du gouvernement Pétain, quand il supprime la République, c'est de mettre en accusation et de monter un procès du Front populaire. Il monte un procès du Front populaire avec les députés communistes, eux, ils sont emprisonnés ou ils sont dans l'illégalité, et les autres, Léon Blum, même Paul Reynaud, Mandel et tout ça, sont arrêtés. On leur fait un procès au titre du Front populaire. Ça va tourner au ridicule. La défense même des accusés va être telle qu'ils seront obligés d'abandonner ce procès. Et puis finalement, dans la résistance, la CGT, les partis qui ont disparu dans la tourmente, dans une situation compliquée, puisque un des secrétaires de la CGT devient le ministre du Travail de Pétain, Belin. Donc c'est une situation compliquée, mais malgré tout, c'est le souvenir du Front populaire qui va irriguer le programme de la résistance, en tirant les leçons, en disant le Front populaire s'est brisé parce qu'il n'y avait pas assez de réformes économiques par rapport aux réformes sociales. On n'a pas fait de réformes de structure. L'alliance n'était pas soudée autour de grandes réformes. On n'a pas fait la sécurité sociale. On n'a pas nationalisé. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour les paysans. Et tout ça, si vous retrouvez en creux dans le programme du CNR, il y a 4 ans d'écart, vous voyez, le programme du CNR, il est négocié, discuté en 43. Vous voyez, c'est la même génération qui sont ceux des résistants que ceux qui ont milité. Et pour terminer sur une note un peu tragique, parce que je trouve que c'est pas mal quand même, hein, le tragique, de temps en temps, ça fait réfléchir. Au moment où les Allemands décident de fusiller des otages, ils demandent au gouvernement de Vichy de faire les listes pour leur livrer des otages qui seront des otages qui feront la terreur dans la population française. Et celui qui est le ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe qui, c'est Pierre Pucheux. Pierre Pucheux, c'était celui qui avait dirigé le syndicat de la métallurgie en 1936, plus exactement, qui était aux côtés de Lambert Ribot pour les négociations. Et Pierre Pucheux avait été ensuite dans un parti d'extrême droite, etc. Il était ministre de l'Intérieur de Pétain. Et il va cocher, parmi ceux qui sont arrêtés, les dirigeants syndicaux avec qui il avait négocié les conventions collectives en 36, notamment Jean-Pierre Timbaud, qui était à Chateaubriand, et bien d'autres. Hein. Et cette, je prends cette image parce que c'est vraiment l'image la plus concrète de l'idée de revanche sociale, et la revanche sociale grâce à l'armée allemande qui fait le sale boulot. Et voilà, le Front populaire est donc vraiment partie prenante de cette histoire tragique, mais aussi de cette belle histoire de la résistance, de la libération, et puis d'un monde ouvrier qui arrive à occuper, non pas le devant de la scène, mais à prendre sa place dans la vie sociale et au cœur de la République, alors qu'il était jusqu'alors aux marges. Voilà, rapidement retracé un peu une histoire politique du Front populaire. J'ai été trop long, excusez-moi. Merci.
Merci beaucoup.